La série dans laquelle je me trouve maintenant, c'est la série qui concerne notre profession de foi, les différents articles de notre profession de foi. Nous avons examiné le premier qui était, donc je vais le lire puisque je l'ai. Nous croyons en un seul Dieu personnel, créateur des cieux et de la terre, esprit, lumière, amour, vérité, éternel, tout-puissant, infaillible, immuable, infiniment sage, juste et saint. Ce Dieu unique, existant éternellement en trois personnes de même nature, se révèle dans la Bible comme Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ça qui a été le thème de nos deux prédications précédentes, où nous avons parlé de ce premier article, à la fois parlé de Dieu, qui est Dieu dans ses attributs, et puis ensuite la Trinité, qui est un point central, un point vraiment de différence avec, évidemment, les autres dieux au niveau de l'islam ou au niveau du judaïsme. Ce matin, nous allons prendre donc l'article numéro 2, qui dit « Nous croyons en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, la parole éternelle manifestée en chair. Nous croyons qu'il a été conçu du Saint-Esprit, qu'il est né de la Vierge Marie. Nous croyons à sa mort expiatoire, substitutive et rédemptrice, à sa résurrection corporelle, à son ascension, à son retour en personne pour les siens et à sa venue en gloire pour établir son règne et juger les rebelles. » Ça, c'est le deuxième point de l'article que nous allons aujourd'hui aborder dans notre prédication. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons aborder encore ce point, Seigneur, qui concerne Jésus-Christ, et nous voulons vraiment, notre Dieu, que tu éclaires nos pensées, que tu suscites en nous des réflexions, que tu nous aides à nous rapprocher de toi et à vivre cette intimité particulière avec toi, puisque tu vis au-dedans de nous, puisque nous sommes, Seigneur, parce que tu es en nous, Seigneur. Accorde-nous cette grâce de visiter encore, Seigneur, cette réalité, Seigneur, qui te concerne, et que cela inspire nos vies et nous guide dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Enfin, c'est vrai que c'est quand même fastoche, hein, ça. On dit « ouvrir votre Bible, vous me regardez ». Vous savez pourquoi vous me regardez comme ça? Parce que vous avez ce machin-là. Hein. Ah, tout le monde a dit, on ne dit rien, on ne regarde pas dans sa Bible, on attend que tac, ça vienne. Hébreux chapitre 1. Adrien, toi, tu ouvres ta Bible au moins. Tu vas ouvrir ta Bible, toi. Ah. Hébreux chapitre 1, nous allons lire la totalité du chapitre. C'est pas long, hein. C'est tout gentil. On peut y aller. Parce que je ne vois rien venir chez moi. Ah oui, voilà. Après avoir parlé autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi, hérité toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ». Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit aux anges, il a fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Auquel des anges a-t-il jamais dit, Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est tout pour le chapitre. Qui est Jésus-Christ? Qui est celui que nous fêtons à Noël, à Pâques? Nous fêtons à l'Ascension? Qui est celui qui a marqué l'histoire de l'humanité? Les périodes, on dit 3000 ans avant Jésus-Christ, 1200 ans après Jésus-Christ. Qui est celui qui a marqué l'histoire de cette manière-là? Qui est celui qui a marqué les civilisations? Civilisation judéo-chrétienne, civilisation marquée par des lois inspirées de la pensée de Jésus-Christ. Qui est celui qui a marqué notre humanité? Qui est le fondateur du christianisme? Une des trois grandes religions monothéistes. La religion qui compte le plus grand nombre de croyants. Nous dépassons même les musulmans en termes mondiaux. Qui est celui? Qui est celui qui fascine tant les hommes? On l'aime ou on le déteste, mais il ne laisse pas indifférent. Ce matin, je voudrais, à la lumière de cet épître que nous venons de lire, l'épître aux Hébreux, j'aimerais faire un petit commentaire sur, finalement, ce qui est ce Jésus-Christ. Qui est Jésus? Mais vous verrez qu'il m'est impossible de pouvoir en parler sans quand même aller piocher à gauche, à droite dans la Bible, parce que Jésus est présent dans toute la Bible. Je dirais même que Jésus est le centre de la Bible. C'est le centre de la Bible. Tout converge vers lui. Tout converge vers lui. Il est celui que même dans l'Ancien Testament, on attendait. Donc je vais aller un peu prendre à gauche, à droite. Vous entendez des choses que vous connaissez. Jésus est quelqu'un qui a inspiré beaucoup de choses, des livres, des films, on a beaucoup écrit sur lui. D'ailleurs, je me suis amusé à mener aujourd'hui quelques livres pour vous montrer que c'est quand même extraordinaire. Hein. J'ai pris par hasard, en regardant dans ma petite bibliothèque, il y en a qui ont des plus grandes bibliothèques que moi, hein, dans ma petite bibliothèque, j'ai pris par hasard comme ça, et paf, dans les 10 livres que j'ai pris, il y en avait 4. Qui parlait de Jésus. Vous voyez? Bien plus qu'un charpentier. Vous connaissez ça. Hein? Ah ouais, ça c'est un peu plus compliqué ça. La personne du Christ. Ça te dit quelque chose toi? Ça c'est un peu plus compliqué ça. Et puis, un petit cadeau que j'aime beaucoup. Jésus, une royauté différente. Tu l'as lu? Bien. Et puis, ce petit bijou là. Ça j'aime bien. Yehoshua, ce juif que l'on appelle Jésus. Ça, j'aime bien. C'est écrit par un juif messianique. Il parle de Jésus, mais avec une autre tonalité que celle auquel nous avons l'habitude. Il explique qu'est-ce que ça veut dire Jésus, qu'est-ce que ça veut dire sauveur, dans la tradition juive, c'est quoi, c'est qui le Messie, quelle est la place de Jésus. Et il démontre que Jésus est vraiment, vraiment quelqu'un qui fait partie du judaïsme. Il fait partie du plan de Dieu, que les Juifs sont passés à côté, ceux qui n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie, l'envoyé de Dieu. J'ai aimé une petite anecdote qu'il a racontée ici. Il était à Londres. C'est quoi cet endroit-là à Londres où les gens là ont le droit à la parole, ils peuvent parler comme ils veulent? Voilà, ce coin-là. Alors il y avait un athée qui était là, et qui disait à haute voix, « Oui, Dieu n'existe pas, Jésus-Christ, c'est des foutaises. D'ailleurs, Jésus-Christ, si Jésus-Christ existait, alors pourquoi est-ce que les Juifs ne l'ont pas reconnu? Et pourquoi les Juifs ne l'acceptent pas? Et pourquoi est-ce que les Juifs n'en parlent pas ?» Et ce monsieur, Moshe Rosen, était justement en visite à cet endroit-là, à Londres. Et donc, lui, ça l'a pris, quoi, ça l'a pris dans... Il a dit non, je ne peux pas me taire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la parole pour dire à ce monsieur, hey, « Eh monsieur, ce que vous dites est faux. Je suis juif et je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi. Je crois qu'il reviendra dans toute sa gloire. » Alors l'athée le regarde et dit, « Oh monsieur, oh, vous me faites marrer. Vous avez un accent américain et vous prétendez que vous êtes juif et que vous croyez en Jésus. » Et puis le gars dit, ok, donne-moi la parole, je vais m'exprimer. Alors au moment où il s'avance pour parler, il y a eu 4 ou 5 personnes qui sont tous des juifs qui ont pris la parole pour dire, mais moi aussi, je suis juif et pourtant je crois en Jésus. L'autre, moi aussi, je suis juif. Et vous savez ce que la terre a fait? Ce que tout le monde peut faire, hein. Le coup du crayon, c'est quoi? Il s'est taillé. Petite parenthèse. Qui est Jésus? D'après ce premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, Jésus est le Fils de Dieu. Et donc, nous savons déjà, quand on dit Fils de Dieu, ça veut dire que c'est une des personnes de la Trinité. Il y a 3 personnes dans le même Dieu, et s'il est le Fils, il est alors la personne de la Trinité. J'aime bien le mot Fils. Peut-être s'arrêter juste pour ça. Quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, le mot hébreu qui rend compte du mot Fils sous-entend 2 idées importantes. Première idée, il est de la même nature. Un fils, c'est l'idée qu'il est de la même nature que son père. Il vient vraiment, vraiment de son père. Il est vraiment la continuité ou l'autre que le père. C'est vraiment de la même nature. Et quand on dit Jésus est fils de Dieu, on insiste sur la nature divine de Jésus. Il est Dieu. La deuxième chose qu'on présente aussi à travers le mot fils, c'est le mot du lien de filiation. Ça veut dire qu'il existe entre le père et le fils un lien affectif, un lien de père et de fils, un rapport d'amour. Un rapport qui existe, un lien d'amour, une relation qui existe. Ce sont là les 2 idées qui sont portées par l'idée du fils. Jésus est le fils de Dieu. Mais le texte continue encore. Il dit, non seulement il est le fils de Dieu, titre principal, sur lequel l'auteur aux Hébreux va beaucoup insister, et je vous dirai pourquoi, mais il dit aussi que il est le porte-parole de Dieu. Il est celui qui parle de Dieu, qui parle des choses que Dieu lui demande de parler. Et plus que ça, il est la parole de Dieu. Il est celui qui parle pour Dieu. Le Fils est donc le moyen par lequel Dieu parle en ce temps qui sont les derniers. Ah, dernier par rapport à quoi? Dernier par rapport à l'accomplissement de sa parole. Dieu a prévu un temps pour préparer et annoncer la venue du Sauveur. Ensuite, un temps pour que le Sauveur accomplisse son œuvre salvatrice et que les gens soient sauvés. Puis vient un temps, le temps de la fin, qui sera le temps du jugement, le temps où il va d'une part rassembler ses élus, son peuple, ses enfants, d'un côté, pour les mettre ensemble, mais de l'autre côté, où ceux qui ont rejeté le message de Jésus, vont pouvoir être jugés. La fin des temps, les temps qui sont les derniers, parce que nous allons vers le temps des jugements, le temps de la fin. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, et c'est pour cela que sa naissance est extraordinaire, son ministère terrestre est extraordinaire, sa résurrection est extraordinaire, son ascension au ciel est extraordinaire. Tout ce qui s'est passé avec Jésus, c'est des choses qui ne se sont pas passées avec quelqu'un d'autre. Connaissez-vous quelqu'un qui est né d'une vierge? Connaissez-vous quelqu'un qui a guéri, qui a chassé les démons, qui a sauvé comme Jésus? Connaissez-vous quelqu'un qui avait les paroles aussi pertinentes et percutantes comme Jésus? Connaissez-vous quelqu'un qui est monté devant les gens? Ouais, maintenant on a des films, on nous montre des personnages extraterrestres qui font beaucoup de choses. Hein. Mais Jésus est monté au ciel. Jésus est pleinement humain, 100% humain. Et pourtant, Jésus est 100% Dieu. Jésus, dans la personne de la Trinité, est celui qui a une double nature. Souvenez-vous, Ésaïe chapitre 7, verset 14. Non, je cite juste. Ésaïe chapitre 7, verset 14, il dit, la Vierge sera enceinte. Donc, voici le signe que je vous donne. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous, parmi les hommes. Pleinement Dieu et pleinement homme. Et à ce titre-là, il est appelé justement le Fils de l'homme. Lui-même, il s'appelle le Fils de l'homme. Pour insister aussi sur la dimension de l'incarnation. Jésus est Dieu incarné. C'est un Dieu qui a pris chair, qui est devenu homme, qui nous a rejoints dans notre humanité. Un peu comme si, moi j'imagine toujours ce geste-là avec des petits enfants, vous voyez, des tout petits. Moi j'ai Nathan Jacques à la maison. Quand il parle, il a d'abord sa tutute dans la bouche, et alors on n'entend rien. Alors je lui dis, écoute, enlève d'abord ça, et puis parle-moi. Mais papa, bon, il est petit, il parle avec quelqu'un qui est grand, il n'arrive pas à se faire entendre, donc il tape des mains, etc. Et donc, pour que je puisse m'entendre avec lui, je me baisse, je m'accroupis, et je me mets au même niveau que lui. Et là, je l'entends. Et lui m'entend, et on se comprend. Et quelque part, le fait de me mettre dans cette dimension-là fait que, même si j'avais des choses compliquées à lui expliquer, il a l'impression d'être en face de quelqu'un de son âge, qui lui parle dans le langage que lui est en mesure de comprendre. Il peut faire des efforts pour comprendre. C'est ce que Dieu fait. Il nous rejoint dans notre humanité. Il descend parmi nous pour venir nous sauver. L'auteur aux Hébreux va trouver des mots extraordinaires pour qualifier la nature de Jésus. Il dit, tu peux remettre un peu le texte à partir du premier verset. Il dit de lui, il dit dans le verset 2, il nous a parlé par le Fils, ce Fils qui est établi comme héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils a participé à la création de l'univers. Il est créateur dans l'acte de la création. Il dit, verset 3, le reflet de sa gloire. Quand on le voit, on voit la gloire de Dieu. L'empreinte de sa personne, quand on le voit, c'est le signe même de sa personne. Et c'est pour ça que Jésus pouvait audacieusement dire à Philippe, il y a si longtemps, Philippe qui lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Il dit, mais il y a si longtemps que tu y es avec moi et tu ne m'as pas connu. Mais le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Une dimension où il se présente comme Dieu. Et la suite encore. Il y a cette dimension de l'humanité, de la divinité de Jésus-Christ, mais aussi une dimension de son humanité. Regardez, verset 3. Il a fait la purification des péchés. La purification des péchés. C'est pas un acte qu'on peut faire. Et je pense que l'auteur a choisi le mot exprès. Purification. C'est fait exprès. Parce que c'est vraiment des actes matériels. C'est pas des actes spirituels qui se font au loin, je sais pas. C'est vraiment la purification. C'était vraiment le fait de se laver les mains. C'était des gestes pratiques qui ne pouvaient être faits que par un être humain. Pas par un esprit, entre guillemets. Il y a là une manière de relever la dimension humaine de Jésus-Christ. Jésus est donc Dieu, revêtu de double nature, à la fois 100% humain et pourtant 100% Dieu. Et le reste du texte, à partir du verset 4 jusqu'à la fin, verset 14, est vraiment une démonstration de la divinité de Jésus-Christ et surtout de sa supériorité vis-à-vis de tous les êtres, y compris les anges. Voyez-vous, le souci de l'auteur aux Hébreux, de l'Épître aux Hébreux, c'est cela, c'était de démontrer la suprématie du Seigneur Jésus par rapport à tout ce qui existe dans la tradition judaïque. Il n'y a rien. Et lorsqu'il positionne Jésus comme étant le Fils, il veut tout de suite dire, attention, celui-là, il est Dieu. Il est au-dessus des anges. Il est au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer. Il est à la droite de Dieu. Il est Dieu. Mais, de l'autre côté aussi, enfin, je dis, pourquoi est-ce que tout cela, pourquoi est-ce qu'il insiste et il parle aussi de messagers à la fin? Pourquoi est-ce que il dit, voilà, Jésus est supérieur à tous les anges, à tous les messagers? Ne sont-ils pas tous... tu peux remonter le verset 14, là? Enfin, la fin. Voyez? Alors, il explique un peu la supériorité par rapport aux anges, et il termine avec cette question au verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu, à travers ce texte, l'auteur veut montrer que l'intention de Dieu, c'est que Jésus-Christ est Dieu venu parmi nous, dans un but précis, dans le but de sauver les hommes, dans le but de donner le salut aux hommes. Voilà pourquoi Jésus est venu. Si la préexistence de Jésus-Christ est une chose indiscutable pour nous, si pour nous nous croyons vraiment que Jésus existe de toute éternité, comme le texte ici le souligne à l'un ou l'autre endroit, si la préexistence de Jésus-Christ est une évidence pour nous, c'est indiscutable, il faut savoir que cela n'est pas toujours aussi évident. Beaucoup de gens contestent le fait que Jésus est Dieu. C'était le cas de cet athée, qui avait dit, mais écoutez, Jésus c'est de la blague. C'est le cas de beaucoup de gens qui contestent la divinité de Jésus-Christ. Or, cette divinité, bibliquement parlant, elle est incontestable. Elle est indiscutable. De l'autre côté aussi, si pour nous l'incarnation est quelque chose que nous trouvons normal, évidente, c'est-à-dire qu'effectivement Jésus s'est incarné, Jésus est fils de l'homme, il est homme, il est humain. Si c'est évident pour nous, il faut savoir que pour beaucoup, ils rejettent cette dimension-là. Vous voyez, une des bagarres avec lesquelles les apôtres ont dû se confronter dès le début, c'était cette idée que Jésus, ok, il est Dieu, ok, mais c'est pas un homme, c'est pas un humain. Alors on balayait comme ça tout ce que Jésus a fait sur la terre. Et on avait un peu moins de difficulté avec la question de la croix, de sa mort à la croix, de sa résurrection, etc. Mais nous croyons à cette double nature. Comment on appelle ça encore en langage théologique? L'union hypostatique. Ah, nous croyons que effectivement Jésus est à la fois homme et pleinement et aussi Dieu pleinement. Et ça, c'est fondateur pour nous. C'est fondateur pour nous. Jésus est venu pour nous sauver. Si Jésus n'avait pas cette double nature, eh bien, ça n'aurait servi à rien qu'il vienne sur la terre. Il n'aurait pas été efficace pour notre salut. Parce que le but finalement c'est quoi? Le but c'est qu'il vienne sur la terre, lui qui d'habitude est au ciel, qui vienne réaliser et accomplir l'amour de Dieu. Son but était de répondre à l'appel de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Hébreux chapitre 10, le verset 5 et 7, peut-être rend bien cette idée-là. Je l'ai donné, hein. Voilà. Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7, voyez ce qui est écrit. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde. Vous savez, j'aime bien prêcher ça à Noël. Parce que lorsqu'on dit Jésus-Christ est né et qu'on voit le petit garçon dans son berceau, on a parfois la tentation de croire que ce n'est qu'une naissance humaine. Mais qu'est-ce qui est écrit là? Christ entrant dans le monde. Ça sous-entend l'idée que c'est un acte volontaire qu'il pose, ça sous-entend l'idée qu'il existait avant de rentrer dans le monde. Entrant dans le monde, dit, Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens. Dans le rouleau de livre dont il, pardon, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Des vérités importantes sont soulignées dans ce petit bout de texte. La préexistence de Jésus-Christ, il est Dieu. Jésus est venu dans le but, il le dit, hein. Alors j'ai dit, je viens Seigneur pour, tu m'as formé un corps. Jésus s'est incarné, l'incarnation de Dieu, hein. Tu m'as formé un corps. Dans quel but? Tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste pour le péché. Dans quel but? Dans le but de sauver. De sauver. Alors Jésus est venu pour cela. Et dernière information importante et très intéressante, la parenthèse, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ah, je vous ai dit, Jésus est au centre de la Bible. C'est l'objet central de la Bible. Dans le rouleau, eh ben, de quel rouleau on parle? Dans le rouleau du livre, de quel livre on parle? On parle de la Torah. Il est question de moi. Je suis le centre. Et, final, pourquoi il fait tout ça? C'est pour faire la volonté de Dieu. Et c'était quoi la volonté de Dieu? C'est que tout homme soit sauvé. Jésus accomplit l'œuvre de Dieu, l'œuvre du salut. Le projet de Jésus était de mourir à la croix à notre place. C'est ça, quand nous disons la mort expiatoire, substitutive et rédemptrice. Il est mort à notre place, la mort substitutive. Il est mort pour payer le prix fort de nos péchés, la mort expiatoire. Il est mort pour nous racheter, nous donner la possibilité de pouvoir faire la paix avec Dieu, d'être réconcilié avec Dieu et de pouvoir enfin vivre une vie telle que Dieu nous a destinée. La mort rédemptrice. Maintenant, cela est possible. La réconciliation est possible avec Dieu. Aujourd'hui, la relation est possible avec Dieu. Nous pouvons faire partie de la famille de Jésus-Christ, la famille de Dieu. Nous pouvons devenir des enfants de Dieu. Nous pouvons être des gens qui vivent avec Dieu. Ce qui n'était pas possible avant. Ce qui n'était pas possible avant. Alors ce matin, vous voyez, je n'ai pas vraiment trop envie de prêcher longuement sur Jésus, puisqu'il y a tellement de choses à dire. Ce matin, je voulais juste vous dire que l'enfant qui est sur la crèche, c'est Jésus que nous fêtons à Noël. Ou cet homme qu'on appelle l'homme de Galilée, celui qui sillonne la province de Galilée en train d'annoncer l'évangile et faire des miracles, qui finit par ne pas être accepté en Galilée parce que... qu'est-ce qui peut venir de bon de la Galilée? Ce rabbi dont on reconnaît la compétence en matière d'enseignement, ce rabouni qui est ce maître affectueux que l'on aime tant, que ses disciples affectionnent, ce roi immortel pourtant, le Seigneur glorieux, celui qui est le Dieu qui mérite toute gloire. Eh bien, c'est ça, le Seigneur Jésus-Christ. Il est un Dieu extraordinaire. Et que peut-on faire? Quelle attitude avoir? Que pouvons-nous avoir comme attitude à l'égard de Jésus-Christ? Eh bien, comme je l'avais dit déjà avec Dieu, nous avons une double attitude, celle évidemment de le reconnaître comme le maître de notre vie. Vous savez, le mot Jésus-Christ, c'est pas un mot anodin. Jésus, ça vient justement de ce petit livre-là, comme on le dit, c'est Yeshua, Yeshua. Et Yeshua, ça veut dire sauveur, celui qui vient sauver. Mais Christ, ça vient, c'est le mot grec, mais du mot qui vient du mot hébreu Messia, Messiah, Messiah. Et Messiah, c'est le nom qui donne Messie en français. Le Messie. Le Messie parce que c'est l'envoyé de Dieu, le fondé de pouvoir, celui qui est chargé par Dieu pour pouvoir sauver. Jésus-Christ, sauveur. Il y a une dimension de la divinité, de la royauté. Vous savez que le Messie, ça veut dire loin. Et vous savez que la personne qui est loin, on mettait de l'huile sur trois sortes de personnes qui toutes étaient l'expression du choix de Dieu. Les prophètes, les sacrificateurs et les rois. C'est à eux qu'on mettait de l'huile, on leur faisait l'onction d'huile. Et donc le mot Messie vient du mot quelqu'un qui a été oint, c'est-à-dire celui qui a mis l'huile. Et l'huile, c'est la marque d'approbation et la marque de feu vert d'autorité de Dieu. C'est comme si on investit quelqu'un dans une fonction, eh bien on va le oindre d'huile. À partir de ce moment-là, il est investi avec l'approbation de Dieu dans son rôle. Et Jésus a été oint. Il a été oint dans toutes les trois manières, à la fois comme prophète, comme sacrificateur et comme roi, et plus que ça encore. Donc derrière le mot Messie, derrière le mot Christ, il y a une dimension spirituelle énorme. C'est pas simplement un copain, on est habitué à citer son nom comme ça, mais c'est le Dieu vivant qui est en œuvre à travers Jésus-Christ. Quelle attitude ! Reconnaître sa seigneurie, reconnaître sa souveraineté, sa majesté, reconnaître aussi son œuvre à la croix, reconnaître que là, quand il est mort, c'était pour moi, c'était pour mes péchés, c'était pour me racheter. Reconnaître cela, l'inviter à devenir le Seigneur et Maître de notre vie. Vivre notre vie en regardant comment lui il est. Comme disait l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, que tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur. Soyez les imitateurs parfaits de Jésus. Et comment on peut être imitateur de Jésus? C'est à travers la Bible. Mais la deuxième chose importante à faire, c'est l'adoration. Comment vivre une relation avec Jésus sans vivre dans l'adoration? Sans concevoir l'adoration. Mes amis, c'est une chose que nous perdons de vue de plus en plus. Parce que notre société nous a rendus malades du culte de la personnalité. Nous sommes devenus des gens qui nous aimons trop. Des gens qui nous sentons tellement bien dans notre façon d'être. Tellement, nous sommes devenus tellement narcissiques avec nous-mêmes que nous sommes incapables d'adorer et d'adorer Dieu. Incapables. Parce qu'on s'aime trop. Le plus important, c'est pas Dieu, c'est moi. Que ce matin, une adoration profonde, un choix dans nos cœurs d'adorer vraiment Jésus naisse. Quand j'adore, je me dépouille de ce que je suis. Je ne suis plus rien. Mais lui, il est tout pour moi. Je suis dans la contemplation, dans l'émerveillement, dans l'admiration. Dans la révérence profonde. Non pas seulement pour ce qu'il a fait pour moi à la croix, mais aussi pour ce qu'il est pour moi. Mon sauveur, mon rabouni, mon maître, celui qui me tient par la main, celui qui m'écoute, qui penche son oreille pour entendre ce que j'ai à dire, qui tient compte de toutes les paroles que je dis. Chaque chose que je dis a de l'importance à ses yeux. Bref, celui avec qui je suis en relation la plus forte, mon meilleur ami. Que le Seigneur nous aide à regarder ce Jésus de cette façon-là et à vivre pour lui, avec lui et en lui. Prions. Notre Dieu, nous voulons vraiment que tu nous aides à t'aimer, à être reconnaissant pour ce que tu as fait, Seigneur. Et que nous puissions, en appréciant l'œuvre que tu as accomplie pour nous, en appréciant l'amour que tu ne cesses de manifester à notre égard, que tu nous aides à apporter notre expression de reconnaissance à travers notre engagement pour toi, à travers notre vie avec toi, à travers notre respect de toi, notre révérence à ton égard, notre obéissance, notre volonté de conformer nos vies à ce que toi tu veux. Seigneur, merci pour l'œuvre à la croix. Merci Jésus pour cette double nature, à la fois pleinement homme et pourtant pleinement Dieu. Merci parce que tu as reçu les clés de l'univers, tu as reçu l'héritage que tu veux partager avec nous. Merci pour cette espérance merveilleuse qu'un jour nous serons avec toi, parce que tu nous dis, Seigneur, que tu es parti au Père pour nous préparer une place afin que là où tu seras, nous y soyons aussi. Merci parce qu'en attendant, Satan ne peut pas toucher nos vies parce que nos vies sont cachées en toi, Seigneur. Et nous te rendons grâce et nous te louons, Seigneur, pour tout cela. Oui, nous croyons. Nous croyons en toi, Seigneur Jésus. Nous croyons que tu es le Fils unique de Dieu. Nous croyons que tu es la parole éternelle manifestée en chair. Nous croyons que tu as été conçu du Saint-Esprit et que tu es né de la Vierge Marie. Nous croyons en ta mort expiatoire, substitutive et rédemptrice. Nous croyons en ta résurrection corporelle, à ton ascension au ciel, à ton retour en personne pour les tiens et aussi à ta venue en gloire pour établir ton règne et juger les rebelles. Amen.